Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Nous sommes donc pour un nouveau numéro de Mille et Une Bulles consacré à un dessinateur de bande dessinée. Cette fois, nous avons la chance d'avoir un local, comme la dernière fois, Jean-Christophe Vergne, en la personne de Manu Cassier. Manu, bonjour, comment vas-tu ?
Eh bien, bonjour Chris, bonjour aux auditeurs.
Alors, ravi de t'avoir parmi nous, hein. Comme je disais, t'es le deuxième local après Jean-Christophe.
Ouais, à m'aider, je crois qu'il n'était pas très loin non plus.
Oui, il est de... oui, exact, c'est vrai. Alors, bien, tu suis l'émission, c'est bien. Oui, il est de Nocelle, exactement. Et donc du coup, j'allais te poser donc, du coup, la première question, parce qu'en fait, tu n'es pas du Lot exactement, tu es né à la base à Paris, en 1972, je me souviens.
C'est ça, je suis né à Paris en 1972. J'ai jamais vraiment vécu à Paris. En fait, j'ai passé quasiment mes 30 premières années dans le 93, en Seine-Saint-Denis.
D'accord. Donc, on va parler donc, du début de ton enfance. Et c'est la question classique que je pose lors de mon émission aux dessinateurs. Dis-moi les BD ou les auteurs de BD qui ont bercé ton enfance et qui peut-être t'ont donné envie d'en faire ton métier.
Bon, ben, y a pas de surprise. Hein. Les premières lectures, ça a été Astérix. Asterix Obélix, Tintin, et puis un petit peu après la découverte des spéciales Strange avec les X-Men.
Ah, ouais. Ah oui, des comics, d'accord.
Exactement.
D'accord. Et du coup, alors, au niveau école, tu as obtenu un bac et je crois un DEUC d'art plastique. C'est avec ce diplôme qu'on peut être prof d'art plastique, c'est ça?
C'est au-dessus en fait. Il fallait passer la licence plus le CAPES, si je me souviens bien, parce que maintenant c'est plus le CAPES. Il fallait être au-dessus. Moi, je me suis arrêté au DEUG, ce qu'on appelle le niveau licence. Je me suis arrêté, j'avais commencé la licence le temps de valider le DEUG parce que j'avais pas fini en 2 ans. Et j'ai arrêté là parce que je voyais pas l'utilité d'aller plus loin, parce que je voulais pas devenir prof de d'art plastique, quoi.
Ah voilà, parce que justement, j'allais poser la question toute faite en disant oui, je croyais que tu voulais devenir prof d'art plastique à l'époque, voilà.
Non, pas du tout. Non, je me suis retrouvé là-dedans un peu par hasard. Il y avait le gros avantage, en fait, j'étais à la faculté d'art plastique de Saint-Denis, donc Paris 8, et il y avait parmi plein de ce qu'on appelait les UV, je ne sais pas si ça s'appelait encore maintenant comme ça, il y avait une UV de BD. Donc on n'apprenait pas à dessiner, on apprenait beaucoup de tout ce qui était théorie et construction d'une bande dessinée. Donc il y avait ça qui me motivait à aller au bout du DEUG, hein, au moins ce truc-là.
Et ça t'a aidé par la suite?
Ah ouais, carrément. Hein, j'ai eu les bases théoriques de tout ce qui était narratif. Alors on l'acquiert de soi-même en lisant, évidemment, parce qu'on comprend comment tel scénariste et tel dessinateur ont construit leur album, qui nous ont bien plu. Mais quand c'est mis quand c'est théorisé, on assimile encore beaucoup plus facilement les choses, en fait.
D'accord. Et alors, je dis en rigolant, parce que mes auditeurs et mes auditrices le savent maintenant, je me suis renseigné sur Google, parce que ouais. Ça, je peux pas tout deviner. Avant de faire la BD, à une époque, j'avoue, j'étais surpris, je savais pas, pourtant je te connais depuis un moment, tu es devenu facteur. Raconte-nous cette période.
Alors, ça n'a pas duré si longtemps que ça, en fait, mais j'ai fait pas mal de boulot alimentaire. À la base, la bande dessinée ou le dessin, je voulais pas spécialement en faire mon métier. C'était plus le dessin passion que j'avais laissé en... plus ou moins de côté, bon, après le temps de fonder une famille et tout ça, donc j'ai fait plusieurs boulots alimentaires, donc chauffeur-livreur, dans les services généraux des magasins Marks & Spencer à Paris, rue de Rivoli, et puis j'ai passé le concours de facteur, j'ai fait facteur à Saint-Lazare pendant à peu près 2 ans et demi, grosso modo, et puis j'ai eu une mutation dans le Lot, et dans le Lot, c'est pareil, j'ai fait une petite session de 2 ans, 2 ans et demi de facteurs. Donc j'ai fait grosso modo 4 ans et demi, 50 facteurs.
Et donc justement, c'est suite à cette mutation en fait que t'es tombé amoureux du Lot.
Exactement. Amoureux du Lot, et en plus, avec au gré des rencontres de certaines personnes qui faisaient de la BD, et puis le festival BD de Cagères qui m'a fait en plus d'autres rencontres, y a pas mal de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu n'essaies pas de vivre du dessin, quoi, enfin de faire de la BD ton métier. Donc je suis devenu à la fin. Je me suis lancé dans la bande dessinée relativement sur le tard.
Oui, parce que j'ai vu justement, avant que tu reprennes complètement la BD, ouais. Tu faisais des animations scolaires, mais aussi des créations graphiques, de logos et tout, tu étais un peu dans l'illustration.
Oui. J'ai, après la partie facteur, j'ai essayé de tâter le terrain, on va dire, dans le dessin. Donc j'ai fait quelques des affiches, des animations d'ateliers, logos, certains magasins, etc. Et avant vraiment de lancer vraiment un projet... auprès des éditeurs pour faire un album BD.
D'accord, mais justement, j'ai vu donc que c'était, toi je me rappelle pas non plus, en 2007, la première BD, donc c'était Le Disparu de Saint-Cyr-la-Popie, c'est ça ?
Alors, ça c'est Le Disparu de Saint-Cyr-la-Popie, c'est une BD de Joël Polomsky. Moi, il avait fait appel à moi pour, et à un autre, on était deux, pour mettre en couleur son album. J'étais que coloriste sur cet album-là, en fait.
Ah, d'accord. Ah oui, je pensais que tu avais fait aussi partie des dessins.
Non, voilà.
Mais j'ai vu donc, justement qu'après, tu as enchaîné en 2012 avec Les Gueules Cassées. C'est ça ton premier album ?
C'est le vrai premier album, enfin, ce que je considère le vrai premier album en tant que dessinateur, oui, c'est Les Gueules Cassées qui sont sortis exactement en 2012.
Oui, que tu as fait avec Gwenaël Marcet comme scénariste, et c'était chez Cléopas Éditions.
C'est ça.
Il n'y a eu qu'un tome.
Alors, c'est une grosse aventure éditoriale, ça.
Vas-y,
Le Gueule Cassée, en fait, c'était un diptyque à la base. Et quand j'étais en train de réaliser le tome 2, donc pour Cléopas, Cléopas a mis la clé sous la porte. Et donc on s'est retrouvé avec l'album qui était un petit peu avancé du tome 2, avoir récupéré les droits d'auteur. Et donc, on avait cet album-là à placer chez d'autres éditeurs. Et bah, en fait, on a eu juste une opportunité, une fenêtre de tir avec les éditions Sandawe, qui était une maison d'édition belge qui marchait en financement participatif. Alors il y a toutes les conditions classiques pour un auteur BD de l'édition, sauf que le financement était par financement participatif. Donc nous, on était payés quasi normalement, on va dire. Mais il y avait tout le budget qui était budgétisé, donc les goodies, mais aussi tout ce qui était impression, diffusion, distribution, etc. Et donc on a pu aller au bout de ce fameux diptyque Les Gueules Cassées qui s'est finalement appelé L'Héritage du Chaos.
Exact.
Donc c'était un gros tome qui réunissait les deux albums de base. Et à la suite de ça, on s'est relancé et on a réussi le financement aussi du tome 2 de L'Héritage du Chaos, qui était donc une suite qui devait se passer à Berlin. Et pareil, en cours de réalisation, là cette fois c'est Sandawe qui met la clé sous la porte, et donc voilà, les aventures avec Gwenaël, finalement, elles sont un peu maudites, quoi. On a quand même coulé, enfin, je dis, c'est pas nous, hein, parce que justement les trucs marchaient entre guillemets plutôt pas mal, mais on a plus ou moins coulé deux maisons d'édition successives avec notre histoire, quoi.
Mais j'étais en train de me dire, justement, c'est un peu la poisse, parce que bon, Cléopas, après Sandawe, bon, Sandawe, ils ont embarqué beaucoup d'auteurs dans leur chute.
Puis nous, on s'en sort plutôt pas mal, parce qu'on avait commencé à avancer, mais on avait aussi récupéré une partie des sous. Et malheureusement, alors ça a occasionné beaucoup d'auteurs qui sont restés un peu le bec dans l'eau. Ça a aussi occasionné beaucoup d'édits, ce qu'ils appelaient les édinotes, les financeurs, qui eux n'ont jamais retrouvé leur bille, ni leurs investissements pour les albums, ni pour s'il y avait des planches originales, des goodies, etc. Et donc eux, il y en a qui ont perdu quand même, à mon avis, assez gros.
Ouais, oui, malheureusement, je pense aussi. Après, je sais que tu as croisé la route donc du scénariste Didier Kélaguyot.
J'espère
que je prononce bien. Et alors, si je comprends bien, vous avez commencé à signer un album qui s'appelait Esclaves de l'île de Pâques chez Boîte à Bulles, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Alors, Didier, en fait, moi, c'est un peu comme Gwenaël. On a signé le projet et on s'est rencontrés sur le tard. Alors, Didier, on s'est même rencontrés une fois que l'album avait été fait. On avait été, disons que mon nom avait circulé à ses oreilles par un autre ami commun qui était Arnaud Floch, qui est un autre auteur BD, et qui lui avait dit, bah tiens, pourquoi tu contactes pas Manu pour faire Esclaves de l'île de Pâques. Et donc on a tout monté, le projet, réalisé l'album, etc. Et on s'est rencontrés, pour une dédicace, si je me souviens bien, c'était une rencontre interview dédicace.
Mais avec Didier, du coup, vous n'êtes pas lâché, parce que je sais qu'après, vous avez enchaîné chez Bambou avec la série Facteur pour femmes.
Alors avec Didier, on a refait un autre album qui était une suite de Facteur pour femmes. Donc on a fait le livre 2. Le livre 1, c'était dessiné et colorisé par Sébastien Maurice. Et donc moi, ils ont refait appel à moi pour cette histoire-là, parce que Sébastien, lui, était parti sur finalement, ça a été qu'un diptyque sur Marius, mais sinon, il devait réaliser la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny et César. Et donc, on a réalisé le tome 2. Et là, en fait, pour dire qu'on devient un binôme quasiment, c'est que l'album sur lequel je suis en train de travailler, c'est aussi scénarisé par Didier.
Alors justement, c'est bien, tu m'as bien passé la main, parce que j'allais justement te poser la question sur quoi tu travailles. Donc ça y est, oui, tu es encore avec Didier et ton porte-bonheur, j'ai l'impression. Pour les...
Voilà, bon là on a changé d'éditeur, mais sinon Didier est toujours là.
D'accord. Et c'est, ça sera quoi le dernier mois? Enfin, tu peux peut-être pas en parler, je sais pas.
Oh ben c'est... Je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera aux éditions Glénat, mais ça sera sur l'itinéraire d'un personnage qui a vécu dans le premier quart du... Enfin, sur la fin du 19e et premier quart du 20e siècle, qui est un petit peu méconnu, mais a quand même un musée et des jardins à son nom à Paris. Donc, bon, je donne des indices, mais j'en dis pas trop parce que voilà, ah, je sais pas si j'ai trop le droit, donc je préfère pas dire.
Je me doute, pour ça, je le fais un peu parler, le pauvre. Mais et du coup, ça tombe bien, parce que ma dernière question, parce que bientôt notre petite aparté va se terminer avec la pause musicale.
Yes.
Comment ça se passe, tes journées de BD, justement, actuellement, là, que tu es en train de bosser sur un album? Comment Manu organise ses journées?
Au niveau de horaire, tu veux dire?
Oui, enfin, au niveau, je sais pas, par exemple, le matin, allez, tu vas faire commencer une planche, l'après-midi, tu vas faire une pause. Comment ça s'organise, ces journées?
Oh, c'est par session. Là, concrètement, là, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends la table lumineuse, une série de 4 planches que j'ai crayonnées. Et quand ça va être fait, je vais faire cette fameuse. Enfin, ces 4 planches, je vais les mettre en lazy, scanner, puis après, je les coloriserai. Donc, je procède par. Par fournée, on va dire, fournée de petites planches, parce qu'il n'y en a que 4, mais le storyboard, en fait, c'est un storyboard crayonné que j'ai fait pour cet album, j'en ai fait 26 planches sur 91, des lazis, j'en ai fait 5, là, je suis en train de faire une autre fournée de 4, et j'attends, parce qu'en fait, le scénario, il a été validé jusqu'à la planche 26, c'est pour ça que je finalise les planches avant de finaliser le storyboard, puisque le scénario, lui, n'est pas complètement bouclé, en tout cas.
D'accord. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que souvent, depuis les débuts de Mille et une Bulles, je pose la question aux dessinateurs, et c'est vrai qu'il y en a qui ont des heures de bureau, il y en a qui sont plus du matin pour dessiner, il y en a qui sont plus du soir. C'est pour ça que je suis assez curieux de comment vous travaillez.
Ah ouais, alors moi, je suis un peu un diesel, hein, donc j'avoue que le matin, c'est grosso modo 9h, des fois même 10h. Il y a pas mal de trucs sur la... je fais les trucs un peu administratifs, les messages, les machins, enfin je fais un peu de la com, on va dire, au début, voire faire les comptes, etc. Et puis après je m'y mets, il y a la pause du midi, et puis après c'est grosso modo jusqu'à 19h, 19, des fois 20h.
Ah, des fois on dit avec les écrivains l'angoisse de la page blanche. Il y a des moments, toi, où tu, ouais, pour X raisons, tu n'arrives pas à dessiner, ou non, ça coule? Question piège.
Non, ça, honnêtement, ça m'arrive pas trop.
Ah, voilà. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que les écrivains, on entend juste tiens, aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration et tout, donc toi, ça coule, c'est fluide.
Ouais, non, ça... Peut-être que ça m'arriverait plus si j'avais à scénariser. Mais là, en fait, je suis, entre guillemets, que le metteur en scène d'une histoire qui ne m'appartient pas, et donc j'ai des descriptifs, ou pas, parce qu'avec Didier, finalement, c'est quasiment que... C'est très succinct, les descriptifs, mais il y a les dialogues, et la projection se fait assez facilement. Je vois comment je vais mettre en scène le truc. Donc bah, quand on a la mise en scène dans la tête, après il n'y a plus qu'à mettre sur la feuille. Donc c'est pas trop ça, en fait. Il n'y a pas trop de l'angoisse de la page blanche.
Ok, merci Manu Cassier, je m'excuse de t'interrompre. On va faire donc la petite pause musicale que tu as choisi avec Rage Against the Machine, avec Killing of the Name. Désolé pour l'accent anglais, parce que bien sûr, je ne suis pas anglophone du tout. Et on se retrouve après la pause. Merci Manu.
Très bien, à tout de suite.
Présence à Figeac, 97.7.
the workforces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Those who die are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Come on.
Et nous voilà de retour dans les mille et une bulles sur Radio Présence Fija 97.7. Nous sommes toujours en compagnie de l'ami Manu Cassier. Donc Manu, tout à l'heure, nous avons fait un petit tour de ta riche carrière. Pour conclure ce chapitre, comme on dit souvent dans la BD, il n'y a pas que la BD dans la vie. Donc est-ce que Manu a le temps de faire autre chose?
En activité régulière, tu veux dire?
Oui, est-ce que tu peux, je parle des balades, la lecture, le cinéma?
Bah voilà, ça tout.
Ah, c'est pas Google, j'ai deviné tout ça.
Lecture cinéma, lecture beaucoup de BD en ce moment, plutôt que. Enfin, maximum de BD plutôt que de livres. J'arrive que. Je perds le fil des fois au niveau de la lecture le soir, donc finalement, les BD, ça va encore bien. Sinon, ouais, cinéma, série, et puis marche.
Marche, d'accord. Marche, ouais. Ouais, ça fait bien de prendre l'air.
Ouais.
Et du coup, donc maintenant, on va enchaîner donc, la dernière partie de l'émission avec, comme je disais tout à l'heure, un portrait chinois. Donc, j'explique pour les auditeurs et les auditrices. Ben c'est tout simple, portrait chinois, je te pose une question. Par exemple, la première question, ça va être, si tu étais un héros de bande dessinée, tu serais qui? Donc, à toi de répondre au tac, ce qui te passe par la tête, Manu. Ça te va?
Allons-y.
Impeccable. Donc, première question, Manu. Si tu étais un héros de bande dessinée, tu serais lequel?
Bon, Blueberry.
Ah, je ne m'attendais pas à Blueberry.
Ah ouais?
Ça, c'est un grand classique. J'aimais beaucoup quand j'étais gamin.
Ouais, mais je sais pas, c'est venu comme ça. J'avoue que j'aime bien son côté un peu... Un peu franc-tireur.
Ah, c'est vrai que ouais, là, moi, par contre, ça fait partie des BD qui ont bercé mon adolescence.
J'aurais pu dire Corto Maltese, mais j'avoue que je lisais pas Corto Maltese, donc je suis plutôt Blueberry.
Ouais, mais c'est vrai que Corto Maltese, c'est autre chose, mais c'est bien aussi. Deuxième question, autre question, c'était si tu étais une invention, laquelle serais-tu?
Bonne question, oh là là, une invention.
Mais bah, moi, des fois,
un vélo.
Un vélo?
Ouais.
Un rapport avec les balades, c'est ça?
Sauf que je les fais à pied, les balades, mais j'aime bien le vélo.
J'aime bien parce qu'en plus, depuis que je fais le portrait chinois, même moi, tu vois, quand je pose des questions, enfin, quand je fais des questions, je me dis, mais même moi, je ne saurais pas quoi répondre.
Donc,
je fais le malin, mais ce n'est pas évident. Mais c'est le côté tac au tac qui me plaît, tu vois, au moins.
Voilà. Mais ceci dit, moi, j'ai écouté les autres émissions avec donc Amédée et Jean-Christophe. Si ça avait été des. Les questions que tu posais, donc le quiz là, j'aurais été bien en difficulté aussi pour répondre, mais bon.
Ah,
bon,
d'accord. Continuons. Mais je te dis, je pense que mon ami Carbone m'écoutera, c'est grâce à elle. Elle me dit, c'est à cause de moi que tu fais les portraits chinois. Non, c'est grâce à toi, Carbone, que je fais les portraits chinois. Donc voilà. Elle pensait au début avoir fait une bêtise. J'ai dit, non, Carbone n'a fait aucune bêtise. Si elle m'entend, qu'elle en soit consciente. Donc dis-moi, troisième question. Donc si tu étais un animal, lequel serais-tu?
Un tigre.
Ah oui.
Ouais, modeste, ouais.
Oui.
Non, j'ai toujours été fasciné par le tigre.
Moi, dans ma tête, moi perso, pour moi, j'aurais dit un paresseux. Voilà.
Paresseux.
Voilà. On épiloguera pas, mais ouais. Ensuite, si tu étais une. Alors, toi qui es artiste, si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu?
Ocre. Je pense que ça serait l'ocre.
Ah oui.
Ocre jaune.
Ah oui, je m'attendais au classique bleu, rouge, mais non, ocre, oui, c'est joli.
Ah non, alors bleu, non, sûrement pas. Rouge à la rigueur, mais ça aurait été ocre rouge alors.
Oui, non, ouais, ocre, tout à
j'aime
fait.
Ocre sépia, j'aime beaucoup toutes ces teintes-là un petit peu.
Alors dans la rubrique, il n'y a pas que la BD dans la vie. On parlait donc, tu aimais le cinéma, les films. Si tu. Un film qui te tient à cœur, qui te représente peut-être, ce serait lequel?
Oh, qui me représente. Enfin, moi, j'ai
qui te
un,
plaît, quoi.
Un film. Enfin, j'en ai plusieurs, des films cultes, mais. J'hésiterai entre L'été d'une fois en Amérique et Bon à botter le truand. Enfin, du Sergio Leone en tout cas.
D'accord. Et si tu étais une saison, ce serait laquelle? Laquelle saison qui te plaît
saison,
le plus en
fait Ah, c'est difficile. Je pense que ça serait le printemps ou l'automne, peut-être.
Mmh. Voilà, tiens,
peut-être. Mais l'automne, façon début d'automne quand même, hein. L'automne, pas... un peu façon été indien.
Voilà, pas automne avec la pluie comme
en ce moment. Bah voilà, pas l'automne qu'on a là en ce moment. Par
voilà,
exemple, je serais plus l'automne d'avant.
Si tu étais un jour de la semaine, ce serait lequel jour?
Un jour de la semaine, le vendredi.
Ça annonce le week-end, c'est ça?
Exactement, ça annonce le week-end.
Sache pas, je pose la question, on me dit rarement le lundi, je sais pas pourquoi.
Si
tu étais un pays, ce serait lequel?
Oh là, un pays. Bon, je pense que la France, c'est pas mal. Hein.
Mmh. Et si tu étais. Alors là, la question est peut-être un peu difficile. Si tu étais une émotion.
Une émotion. Ah,
ça serait la tristesse, le rire, le.
Je le canalise, mais parfois ça pourrait être la colère, on va dire.
Ah.
Voilà.
Si tu étais donc une musique, ça serait laquelle?
Une musique. Le soul funk, la soul funk des années 70.
D'accord. Et pour finir, si tu étais un peintre célèbre, n'importe quel domaine. Hein.
Peintre célèbre, moi je dirais, à la rigueur j'en mettrais trois, j'ai une espèce de trilogie, ça serait soit Vermeer, Delatour ou Caravage.
Excellent. Voilà, c'est pour ça que le portrait chinois j'aime bien, ça permet vraiment de découvrir l'auteur sous une nouvelle facette. Du coup Manu, écoute, comme je dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça passe très très vite, donc on va être obligé de clôturer cette émission en compagnie. Je te remercie encore bien sûr de nous avoir accordé du temps, parce que en plus tu es en plein album en ce moment. Donc je te remercie, j'annonce à nos auditeurs et aux auditrices que le prochain invité, donc la semaine prochaine, ça sera Didier Chris. Vous pouvez aussi, si vous désirez, j'ai un groupe Facebook, donc ça vous permettra de récupérer les podcasts et tout de l'émission pour les réécouter, et notamment la semaine prochaine donc le podcast de Manu Cassier. Ensuite, un petit rappel aussi, il y a une nouvelle émission littéraire, mais c'est chaque mois cette fois, qui s'appelle Les Mille et Un Mots, avec le premier, c'est un romancier d'Heroic Fantasy, qui s'appelle Frédéric Singlard, c'est un Toulousain. Donc là, pareil, vous pouvez retrouver sur le site de Radio Présence Figeac 97.7 toutes les infos pour en savoir plus. Et pour finir, juste une petite info très importante pour la radio, c'est le 30 novembre, au 1er et 2 décembre, il y a Radio Don. On vous en expliquera plus en conséquence. Mais voilà, sachez qu'il y a un radio-don qui va avoir lieu sur notre antenne d'ici la fin du mois. Je vous remercie à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Manu Cassier, merci encore à toi.
Merci à toi.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Au revoir.
Au revoir.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.